en quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Et oui, nous allons continuer à parler des intellectuels autour de psychiatrie, psychanalyse et politique. Et nous sommes sur Cornelius Castoriadis aujourd'hui.
Donc je présente très rapidement un peu le personnage. Donc voilà, c'était un philosophe économiste. Il est mort, hein. Bon, en 97, il est né en 1922. Donc, philosophe, économiste et psychanalyste français, défenseur du concept d'autonomie politique. Il a été adhérent d'un parti trotskiste, le Parti communiste internationaliste. J'ai l'impression qu'il a fait un autre. C'est bête, j'ai pas tout le curriculum, le CV complet. Mais enfin, en tout cas, il semble qu'il a été un trotskiste et qu'il aurait rejoint des gens qui disent les conseillistes, ce seraient les travailleurs
Le PCI, c'était le Parti communiste international.
C'était eux, Ah oui, le PCI, actuel PT. J'ai pas rêvé.
Alors.
Oui, Parti des travailleurs.
Oui, de toute façon, c'était. Oui, à l'époque, disons que
toujours,
c'était. Disons que l'époque était un autre contexte plus animé, enfin oui, mais
oui,
tout
je
à fait.
Suppose,
oui.
Mais bon. Enfin bref, disons que on peut supposer que dans les concepts d'autonomie politique, évidemment, il aurait quand même rejoint plus ou moins, en effet, les idées libertaires. On peut le supposer. Il a un côté éducationniste qui fait légèrement avant-garde, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc il aurait aussi il est devenu économiste auprès de l'OCDE, c'est un organisme intergouvernemental qui rejoint, enfin c'est des pays riches en général, et qui est de 1948 à 1970, et donc il est un organisme qui est considéré comme néolibéral, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je vais vous spoiler un peu mon point de vue, vous aviez peut-être deviné. Je connaissais absolument pas. J'avais entendu son nom parce que c'est une des stars d'un collectif qui s'appelle Lieu commun qui se faisait inviter régulièrement par une émission qui s'appelait Offensive Sonore. Donc le groupe Libertaire d'Ivry s'est un petit peu défoncé pour essayer de faire dégager. Nous, on pense que des gens qui invitaient. C'est un collectif facho, disons les choses un peu clairement, et super raciste et tout. Et donc, on estime que des gens qui, non pas par accident, mais régulièrement l'invitaient, auraient bien fait aussi de dégager, mais bon, c'est pas nous qu'on décide. Bon, mais je veux dire, quelque part, Lieu commun, justement, ben, ils aiment bien lui. Et un autre, dont quand tu vas commencer à présenter le texte, dont je vais vous dire trois mots, qui est vraiment un peu une star chez les décroissants et chez les écolos, et qui s'appelle Jacques Ellul. Et j'espère que vous êtes assis, parce que on en a fait des fois des révélations à Sox. On a parlé de Roger Dadoun et de toutes les saloperies qu'il a pu dire. On avait parlé aussi de Françoise Dolto, qui était pas mal non plus.
Ah oui,
était bien, de bonne mémoire. Mais Jacques Ellul, vous allez vraiment tomber de la falaise. Enfin, voilà, vas-y.
Alors, donc.
C'est un article de reporter, hein, je crois.
Un article, oui, donc par Didier Pagès, le 30 septembre 2014. Castoriadis, philosophe de l'autonomie et précurseur de la décroissance. Cornelius Castoriadis ou L'autonomie radicale par Serge Latouche, donc c'est un titre, présente l'œuvre de ce penseur du XXe siècle qui a fait le passage entre marxisme et écologie. L'écologie est subversive car elle met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète et montre l'impact catastrophique de la logique capitaliste sur l'environnement naturel et sur la vie des êtres humains.
À part ça, t'as pas sauté le fait que le précédent livre de Serge Latouche était justement sur Jacques Ellul ?
Alors, non, c'est après, justement, c'est après. Ça vient d'accord, juste d'accord. Là, maintenant.
Alors vas-y, là,
je peux le dire, d'ailleurs. Oui. Toujours sur la brèche, Serge Latouche dirige depuis 2013 la collection Les Précurseurs de la décroissance, éditée par Le Passager clandestin. Déjà auteur de son premier titre « Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien », il propose en ce printemps 2014 « Cornelius Castoriadis ou l'autonomie radicale ».
Alors, je le dis, Castoriadis n'est pas une ordure comme Jacques Ellul. Hein, enfin, d'après ce que j'ai vu ici et là, non mais je m'excuse, non, je dis non, ça non, avec non, mes petits mots à moi, mais... Je dirais plutôt, toujours avec mes petits mots à moi, que Castoriadis, ou bien... C'est pas banal à proprement parler pour l'ensemble de la population peut-être, mais pour des écolos de longue date, parce que l'écologie, c'est pas lui qui l'a inventé, quand même. Et la critique du productivisme et tout, je pense pas non plus, mais enfin, bien que bien sûr, il faut que ça date du la critique doit en dater. Quant à l'idée de l'autonomie, ben, c'est pas pour dire, mais c'est tout simplement un peu la base des idées anti-autoritaires, des libertaires, donc il a pas réinventé l'eau tiède. Mais donc au choix où c'est assez banal, ou bien, je le dis encore avec mes petits mots, moi c'est de la branlette. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu fais des grandes généralités et qu'on sait ni comment ni à quoi ça s'applique, je cherche un autre mot plus approprié, mais j'en trouve pas. Donc voilà, donc Jacques Ellul, juste pour en finir avec lui, parce que en revanche, il avait pas tellement de rapport, à part qu'il a un rapport avec Castoriadis. Le rapport, c'est qu'ils ont dû avoir un échange épistolaire, et je veux dire, on peut dire, oh, on n'est pas d'accord avec tout, mais bon, je vais vous en dire, balancer nous deux comme ça, je te dis tout à l'heure, t'es quand même resté bouche bée.
Oui.
Oui, vraiment. Oui, quand même. Bon, c'était un cubini, mais ça, les gens disent, oh, qui n'a ses petits défauts, était un peu cubini. Mais c'était, il y a cubini et cubini, il y en a qui sont plus nigauds que méchants, on est d'accord. Mais lui, il faisait pas partie, il était nigaud, d'accord, mais il était aussi très méchant. Ouais, pareil, je vous en donne un comme ça au hasard, entre autres, il pensait que le sida était une punition divine à cause de la libéralisation des mœurs et en particulier de l'homosexualité. Et il l'a exprimé, enfin, publiquement.
C'est ça qui m'a ébahi.
Oui, c'était quand même ébahi. Et il était aussi, il pensait que d'une manière générale, il fait d'ailleurs référence à Sodome et Gomorre et aux punitions divines que ça mérite quand on jette son slip par-dessus les moulins comme ça et tout. Et puis, accessoirement, il était également contre le, contre le rock, la musique de sauvage, et puis la BD.
Ah oui. C'est... Ça aussi, ça m'a quand même scié, quoi.
Ouais. C'est pas de la vraie culture. Vas-y, continue.
Donc, sur Castoriadis. Cornelius Castoriadis est né en 1922 à Istanbul, passe son enfance à Athènes, s'engage très jeune dans le mouvement communiste et gagne la France en décembre 1945. Il fut philosophe, sociologue, économiste et psychanalyste. Il décédera à Paris en 1997. Adhérent du Parti communiste internationaliste, il créera dès 1946, en compagnie de Claude Lefort, la revue mythique, dit l'article, « Socialisme ou barbarie ?» De la psychanalyse à l'autonomie, puis à la démocratie directe. Intéressé, puis passionné par l'œuvre de Freud...
Oui, déjà, enfin un peu...
Ah oui, non, mais c'est... C'était cette mouvance de freudo-marxisme à l'époque. Il fréquente les milieux psychanalytiques de Paris et entreprend dans les années 60 une analyse. Le passage par la psychanalyse ne répond pas exclusivement à une motivation personnelle. Il s'en saisit également pour remettre en cause l'édifice théorique de Marx. Ce double processus lui permettra de redécouvrir l'importance de l'imagination chez l'individu.
Waouh, il a trouvé ça tout seul. Ah, respect.
Ainsi que celle de l'imaginaire social et historique, élément fondateur des institutions indispensables aux sociétés humaines.
Alors là, justement, tu vois, bon, je te parlais tout à l'heure de branlette, mais honnêtement, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire qu'il y a un imaginaire social, ça sonne joli à l'oreille, mais encore, ça s'applique à quoi ? C'est quoi, tu vois ? Je veux dire que l'imaginaire social, c'est quoi ? Alors, il faut, si tu veux, le fait de parler flou comme ça, c'est un truc d'ailleurs assez courant chez beaucoup d'intellos, si tu veux. Et du coup, ben, tu projettes un petit peu ce que tu as envie d'y projeter. Moi, j'ai l'impression, on avait un peu cette difficulté, hein, quand on a parlé de la dernière fois de Lacan, ou quand on avait parlé encore pire de Roger Dadoun, qui lui est vraiment une belle crapule quand même. Mais comment dire, tu te dis, oui, grosso modo, je pense que l'unique, parce que tu te demandes comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme lien entre l'anarchie et la psychanalyse. C'est quelque chose qui participe absolument pas. Ça part, effectivement, la psychanalyse, c'est quelque chose qui s'intéresse à l'individu. Donc, la politique, ça ne peut être agit en effet que collectivement. Donc même si en effet tu peux t'adresser à des individus, là par exemple on s'adresse à des gens chacun chez eux si tu veux, tu vois, mais en même temps il y a quand même sur le côté de la psychanalyse, c'est quand même très particulier, parce que là on est en train de parler de politique, si tu veux, mais quand tu parles de psychanalyse, en quoi, si j'ai bien suivi Freud, et je l'ai lu en plus, figure-toi, à une époque, tu sais, mon ex était psy, alors tu vois, je veux dire, je me suis farci énormément, je me suis farci beaucoup de, et puis dès que t'en as jamais entendu causer, hein. Non mais vraiment, mais Freud, oui, cela dit, c'est rigolo à lire, hein, franchement, parce que c'est bien, toutes les interprétations qu'il fait et tout, mais enfin, en quoi le fait de savoir que ton papa, tu voulais le buter, et ta maman, t'avais envie de l'épouser, ou que t'as eu tel ou tel traumatisme dans ton enfance, donc tu t'interroges, et la seule réponse qui paraît envisageable, mais ça demande quand même à être démontré, c'est, et c'est ce qu'il va dire, tu vas voir, c'est que plus t'es lucide, tout court, enfin sur toi, tu vois, si t'es lucide sur toi-même, tu vas devenir lucide tout court, tout le temps, sur tout, tu vois. Et du coup, évidemment, faut plus te la faire en politique. Tu vas devenir automatiquement quelqu'un qui va être capable de penser tout seul. Alors, j'aurais qu'un mot à dire, c'est que ça demande vraiment à être démontré et par l'exemple. Je veux dire, en médecine, par exemple, si dans les sciences en général, ils peuvent toujours attaquer les sciences ou les technosciences, mais que tu critiques les effets secondaires désastreux, je suis entièrement d'accord, d'autant plus que c'est démontré. Je veux dire, la pollution, ça se mesure, on va dire. Bon, donc il n'y a pas tellement à tergiverser. Il se trouve encore des gens pour nier qu'il y ait de la pollution, mais enfin pas tellement. Donc voilà, ça, tu te dis, ça c'est un truc, c'est du lourd, tu peux le démontrer. En revanche, que la psychanalyse fait devenir plus lucide, ben ça c'est quand même quelque chose des... Moi ça me paraît aussi hasardeux de le dire que de dire que la pétanque te rend plus lucide politiquement. Enfin, je veux dire, tu te dis oui, mais enfin... Ben, donc, quelque part, la seule réponse possible, ce serait que il serait sa propre tête de gondole sur sa théorie, comme quoi, là, normalement. Or, excuse-moi, mais je trouve pas que tu vois, c'est comment, à une époque, il y avait des, pour faire de la pub pour, je crois que c'était toute une ligne de trucs diététiques, ils payaient des jeunes, qui étaient de préférence très en forme, pour faire du patin à roulettes dans Paris, avec un gros badge ou des t-shirts où il y avait écrit « Demandez-moi le secret de ma forme ». Voilà, donc autant te dire qu'on n'envoyait pas Serge Gainsbourg, tu vois. Bien sûr, évidemment. Donc, il fallait quand même que tu te dises, ah ouais, c'est quoi le secret de sa forme, etc. Donc là, s'il avait un badge, demandez-moi le secret de ma lucidité politique. Ouais, non, tu sais pas, garde-le ton secret. Donc voilà, parce que c'est ça, c'est un peu se la péter quand même de présenter les choses comme ça. Je suis psychanalyste, j'ai fait une psychanalyse, j'en ai jusqu'à demain pour te citer des psychanalystes qui craignent. Tiens, Gérard Miller, par exemple, tu vois, le psychanalyste de la télé qui abuse qui a eu des... qui a eu des histoires d'abus sexuels et tout sur des jeunes filles. Enfin bon, le fait d'avoir fait une psychanalyse te rend pas plus lucide forcément sur toi-même, à mon avis. Hein. Ça aussi, ça demande à être démontré. J'ai connu assez de gens qui en avaient fait une pour pas être très convaincus. Mais que ça rende lucide politiquement, par quel truchement, si tu veux? C'est pas du tout le même type de questions et de processus. Par exemple, le fait d'être exploité est quelque chose qui t'aide bien à comprendre ce que c'est l'exploitation. T'as pas besoin de t'allonger sur un divan avec un mec qui te fait mouille toutes les 5 minutes. Tu vois, pour le comprendre, suffit d'être dans cette situation-là. Et quand il y a eu des révoltes, en général, que ça conduise pas à l'autonomie de la pensée, c'est que je ne sais pas exactement comment on conduit à l'autonomie de la pensée. Enfin, tu vas voir, je vais te surprendre, je le dis un peu à l'avance, mais souvent, ce qui te sort du chapeau, c'est l'éducation. Oh, tous ces gens qui ont envie de t'éduquer. Je sais pas si toi, tu as envie qu'on t'éduque. Moi, personne qui a envie d'éduquer a intérêt à m'approcher. J'en ai déjà. Déjà, je me suis pas laissé faire quand j'étais à l'école. Hein. Alors, c'est pas pour que maintenant, il y ait un blaireau qui vienne me qui vienne essayer de m'éduquer. Enfin, bon, voilà. Bon, on continue. Excuse-moi.
Non.
C'est vrai que je spoil un peu, mais bon, voilà.
Dès lors, la psychanalyse contribuera à l'émergence de l'autonomie de la pensée.
J'ai un peu répondu avant la question, je suis désolée.
Prouvé ça. Oui. Et subséquemment de l'autonomie en politique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où Castoriadis, il était dans les mouvements politiques, puis il a complètement lâché le marxisme, il a complètement mis de côté le marxisme. Non pas, c'était pas seulement insuffisante pour penser la société dans son ensemble, mais c'était même gênant en fait. Donc il s'est vraiment tourné vers la psychanalyse et la philosophie toujours.
Okay. Enfin là tu vois, ça, c'est un exemple parfait d'un truc subséquemment. Tu vois pas pourquoi subséquemment. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es lucide sur un plan que tu vas l'être forcément sur un autre. Je veux dire, et même en politique, hein, d'ailleurs. Je t'apprends rien. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent dire un truc très pertinent il paraît, parce que j'en sais rien là-dessus, que Proudhon aurait dit des choses pertinentes. Il paraît. Enfin, je l'ai entendu dire et tout. On le considère comme un père de l'anarchisme, ce qui est plutôt bien, ce qui fait plutôt bien sur un CV. Mais en même temps, bon, il disait des trucs du genre que les femmes aiment bien être violées, que, enfin, détestent pas, ce qui revient un peu au même, qu'il faut buter. Il donnait tous les cas où il faut un mari doit pouvoir tuer sa femme. Et il disait des trucs comme plus dégoûtant. Que les tarlouses, enfin je me souviens plus, enfin c'était un mot très très et tout, et puis et que le nègre à face de gorille, et là je cite, y a les femmes intellectuelles. C'est pour te dire que c'est pas parce que t'es lucide sur un plan que tu vas l'être obligatoirement sur un autre. J'ai même l'impression là pour le coup de dire une grosse banalité, mais c'est quelque chose qui peut se constater. Il y a tellement d'exemples. Enfin, là on peut donner plein d'exemples. J'ai donné l'exemple de Proudhon, mais il y en a plein d'autres. Enfin, où tu dis tiens, enfin je sais pas, ça a dû t'arriver plein de fois de dire tiens, même des gens que tu connais, c'est bête sur tel plan, il dit un truc, c'est pertinent, et puis la minute d'après il va te dire un truc mais complètement stupide. Donc il n'y a absolument aucune subséquemment, il n'y a pas de subséquemment. C'est pas parce que tu es lucide sur ce qui était arrivé dans ta petite enfance, en admettant d'ailleurs que la psychanalyse te permette ça, ce qui demande encore un peu à être démontré, mais même en admettant, ben je vois pas pourquoi subséquemment tu serais autonome, tu aurais une pensée autonome dans le domaine politique. C'est pas le même type de démarche, c'est pas le même type de domaine non plus. C'est comme si on disait, celui-là, il est fort en physique-chimie, donc il va être forcément fort, je sais pas, en, tu vois, même en français, ou un, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, il n'y a pas de subséquemment. C'est vite dit pour tout dire. Voilà.
Je pense qu'une psychiatrie coercitive éveille plus à l'action politique, puisque du coup c'est révoltant.
Oui. Donc, moi j'aurais bien eu probablement, bien qu'il y a des gens que ça a juste détruit. Hein. Donc on peut pas dire subséquemment, parce que il faudrait que tu te fasses défoncer pour être lucide. Non. Je disais être exploité, ça t'aide, mais des tas de gens malheureusement se font écraser la gueule à longueur de temps par leur patron et depuis la nuit des temps. Oui. Hein, et c'est pas pour ça qu'ils se sont obligatoirement révoltés. Enfin bon, donc subséquemment, tu le remets dans Coco,
Castoriadis. Je reprends l'article.
Vas-y.
Selon Castoriadis, une psychanalyse bien comprise permet à l'individu de tenter l'organisation d'une vie personnelle plus libre, plus autonome, c'est-à-dire une vie qui se donne à elle-même ses propres lois.
Mmh,
alors, entre...
Oui.
Entre parenthèses, autos nomos. Ça fait bien, souvent, ça fait bien de mettre du latin. Petit peu.
Et là, je vais citer Nicolas, tu sais, du groupe Vivri,
oui.
Parce que tu sais que quand il a lu l'article de Castoriadis, il était consterné aussi. Mais tu sais, il se rappelait qu'on avait dit dans cette émission, je t'avais dit, quand tu m'avais lu un texte de marxiste qui était imbitable et tout,
ouais.
Je t'avais dit, c'est le genre de personne qui à table te demande de
passer le
chlorure de sodium. Eh ben, lui, il te demande de passer le chlorure de sodium, mais avec le mot grec et en ajoutant, comme le disait Aristote. Merci, Nicolas.
Castoriadis ajoutera que nous avons besoin d'un individu autonome pour faire le lien avec le politique. Une société autonome, je cite, ne peut être formée que par des individus autonomes. Et des individus autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome.
Bah là, par contre, je dirais ouais, sans doute. Enfin oui, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est le béaba un peu de l'anarchisme. Enfin, je veux dire, ça c'est juste. Si je te dis, c'est pas banal pour le commun des mortels, mais pour les anarchistes, c'est juste comme dire le feu ça brûle et l'eau ça mouille, hein, vraiment.
Donc cette voilà.
C'est juste que la psychanalyse, tu vois pas ce qu'elle va foutre là-dedans, mais c'est pas grave.
Alors, en l'absence d'une cure psychanalytique collective, c'est une véritable. c'est une véritable paideia. On met du grec aussi. Hein.
Oui.
Une éducation désinstrumentalisée, aux vertus morales nécessaires à l'exercice de la citoyenneté, une éducation pour l'autonomie, vers l'autonomie, éloignée des âneries diffusées par la télévision, qui conduira l'individu à s'interroger sur le sens de son action sans céder à la passion et aux préjugés.
Alors là,
en clair, émanciper l'être humain sans l'émanciper de la société.
Comment dirais-je, il y a plusieurs problèmes. D'une part, cette volonté d'éducation que je rejette avec très violemment. Mais d'autre part, c'est comme attraper un canari en lui mettant du sel sur la queue. Je veux dire, si tu peux faire une éducation qui est en admettant qu'on serait pour l'éducation, hein, mais si tu peux faire une éducation qui serait libérée en effet de ce qu'est le système dans lequel on est, c'est que tu l'as déjà dépassé. C'est con, mais c'est vrai, quoi.
Mmh.
On dirait, tu sais, ils disent ça comme ça. Eh, moi, j'ai trouvé la solution. Ah, moi, j'ai trouvé la solution. Il n'y a qu'à éduquer. Et puis, comme ça, les gens, ils deviendront, on les éduquera à être libres. Donc, je présume que c'est des trucs, il y a des gens qui pensent que, par exemple, si on fait des écoles alternatives, c'est un sujet à part entière parce que j'en aurais long à dire aussi sur les écoles alternatives, mais bon, mais ça ne peut être que très marginal, donc c'est sûrement pas ça qui amènera une émancipation collective, d'autant que la plupart du temps, les gens qui, sauf ceux qui font la méthode freinée à la limite, mais qui s'inscrit quand même dans un certain système qui encadre et limite, malgré tout. Mais autrement, c'est quand même pas un truc qui va être très, qui va beaucoup s'adresser aux plus opprimés, en particulier, comme on a une notion un peu mondiale de l'idée de révolte, je vois pas comment concrètement on mettrait en place, même en admettant qu'on serait pour l'éducation, quelque chose comme ça, quoi, tu vois, sauf des petits trucs dans les coins pour les souvent des gosses de bourges, faut le dire, mais bon, voilà, quoi.
Oui. L'éclosion de la démocratie directe se réalisera donc sous l'impulsion conjuguée de l'autonomie individuelle et de l'autonomie collective.
Pardon.
Se réalisera.
Hein, c'est... L'autonomie individuelle et l'autonomie collective. Oui, bah ça veut rien dire. Écoute, excuse-moi. Mais... oui.
Donc, voilà.
Pour... et comment, pourquoi bon.
Alors c'est un résumé, hein, c'est, l'article résume la pensée
qui
est
bien
plus développée dans les textes de Castoriadis.
Malgré tout, je sais que c'est un truc, tu te dis, s'il faut se cogner des pages et des pages comme ça pour essayer de voir où il veut en venir. Moi, je trouve, si tu veux, regarde, là, on n'a pas longtemps, mais quand tu veux être dans le concret, tu donnes des exemples, tu oui. mets des exemples, il n'y en a pas. Ah oui, tu vois vrai. Ce que ah je veux
oui,
dire
oui, enfin, voilà. Oui, parce que j'ai essayé de lire quelques pages de Castoriadis, mais c'est vrai que c'est dur, en fait.
S'il s'adressait aux ouvriers, ouais. je ne veux pas lui faire de la peine, mais en effet, il a intérêt à leur bourrer salement le crâne avant d'arriver à leur parler.
Il faut avoir quand même un certain niveau au niveau de la philosophie, quoi. Il faut avoir un certain niveau, au niveau de ou mathématiques, ou enfin, c'est un.
Je pense qu'en plus, on en a déjà parlé les dernières fois pour Lacan en particulier, c'est que, en plus, quand tu déshabilles un peu, tu vas voir, il y a un passage en particulier qui est rigolo pour ça. C'est que quand tu déshabilles un petit peu la pensée et tout de ce, parce qu'on est ébloui par les diplômes, par le statut, ouais, tout ça non, quand même, et oui. puis le vocabulaire, surtout un mec qui carrément parle grec et latin. Mais
moi je pense que c'est pas ça qui m'attire, parce que je sais que c'est des,
non mais c'est ça qui te repousse pour lire.
Oui voilà. Par contre c'est justement cette espèce de branlette intellectuelle, en fait, c'est ce truc de jeu, en fait, de jeu d'articulation, de concept, etc., qui peut être amusant en fait à lire, mais qui voilà dans un jeu comme on fait des mots croisés, si tu veux.
Ah bah oui, je te raconte. Sur Lacan, on en avait parlé de ça. Mais... Tu dis c'est rigolo, mais encore.
Ah oui, non, mais après c'est voilà, c'est ça qui est attirant au départ pour certains. Alors. Donc, pour Castoriadis, la démocratie représentative, à l'origine d'une regrettable apathie politique d'un nombre grandissant d'électeurs, est un oxymore. C'est-à-dire, la démocratie représentative est un oxymore. La vraie démocratie n'a pas
son représentant.
On n'est pas représenté.
Oui, mais ça, c'est là aussi, c'est une banalité pour les anards, bien entendu.
Porte ouverte.
En revanche, là où je ferai quand même une parenthèse, c'est quand il dit que ce serait à l'origine d'une apathie collective. Et ça, c'est récurrent, et c'est récurrent. J'en ai peur, pas seulement d'ailleurs chez certains écolos ou anti-technosciences ou etc. C'est cette idée que c'était mieux avant. Que l'homme est bon, enfin même presque une idée du bon sauvage, tu vois, avec l'idée que ce serait la technologie, ce serait même la modernité, c'est aujourd'hui les gens, ils sont de plus en plus comme ci, ils sont de plus en plus comme ça, et comme si, pourtant je suis pas une férue d'histoire, hein, mais j'ai vu des films qui se passaient dans un passé très lointain, et dire que les gens étaient des champions tous de l'empathie, ce serait peut-être un peu exagéré, quoi, on va dire. Donc, quant à l'apathie politique, on peut quand même pas dire que, même en remontant, et c'est sûr qu'il y a eu Spartacus, mais je veux dire, c'est un accident, pour ainsi dire. Parce que sinon, ben, la plupart des gens opprimés étaient malheureusement très résignés, et dans des tas de pays, dans des tas de systèmes, les gens n'avaient de toute façon, on leur demandait pas leur avis, donc à part quand il y avait une jacquerie et tout, ben, je sais pas quelle était la part de l'imaginaire pour citer Castoriadis dans leur révolte. Je pense que c'était plutôt quand tu as pu à bouffer, tu commences à en avoir marre. Mais je veux dire, les gens n'étaient pas spécialement ni dynamiques politiquement, ni super imaginatifs, ni surtout plein d'empathie pour autrui. Il dit maintenant c'est l'égoïsme. Oh non, mais avant c'était pas du tout l'égoïsme. Quand tu avais des gens qui venaient applaudir dans les arènes, des gens en train de se faire bouffer par les lions, c'était c'était même pas le capitalisme à l'époque. Il faut quand même pas oublier que à la fois l'oppression, le désir d'expansion aussi. Je cite les Romains. Je pense que Jules César avait pas, c'était pas à proprement parler. Il répond pas à la définition du capitalisme ou de l'État tel qu'on le voit maintenant. Mais je pense que dès qu'il y avait un endroit où il y avait des gens qui avaient réussi à devenir des chefs, ils essayaient de, quand ils pouvaient, hein, s'ils le faisaient pas, c'est qu'ils disaient, c'est comme tu iras pas marcher sur les pieds de Mike Tyson et lui dire que t'as fait exprès. Il y a un tout petit pays, se disait, j'ai peut-être pas allé essayer d'envahir le voisin. Autrement, on en a vraiment pour des heures et des heures à détailler toutes les cultures, toutes les civilisations, enfin, et pas seulement en Occident, qui ont essayé de bouffer les voisins, quoi. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, toute cette idée de tout ramener, en fait, à la fois à la technologie, et au capitalisme dans sa forme moderne, et avec le côté, puis les gens ils deviennent comme si, mais les gens ils sont plutôt, enfin ils étaient plutôt même un peu pire auparavant. On faisait, même ici en France, on faisait des exécutions publiques dans l'allégresse générale, je veux dire. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, il faut peut-être qu'il révise ses livres d'histoire, le diplômé. Bon, enfin, bref.
La démocratie représentative qui est à l'origine d'une apathie politique d'un nombre grandissant d'électeurs. Le gouvernant ne s'éloigne-t-il pas du gouverné ?
S'éloigne-t-il pas ? Pourquoi il a déjà été prêt ?
Oui. C'est... Alors, Castoriadis répond...
C'est une bonne question.
Castoriadis répond à cela. Je peux dire que je suis libre dans une société où il y a des lois si j'ai eu la possibilité effective et non simplement sur le papier de participer à la discussion, à la délibération et à la formation de ces lois. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit appartenir effectivement à la collectivité, au peuple.
Alors là, tu vois, on pourrait dire « Oh, bah, c'est un truc basique des anarches », mais en fait, à mon avis, non. Parce que le mot « pouvoir » et le mot « anarchisme », là, c'est vraiment une oxymore.
Oui,
vraiment.
Voilà.
C'est-à-dire que, si tu veux, quand il parle de loi, par exemple, ben, tu te dis, là aussi, s'il avait pu donner une petite précision, moi, personnellement, je l'aurais fait. Qui dit loi, dit système de sanctions. Par exemple, si jamais tu débordes de la loi. Or, quand tu te prononces même pas là-dessus, du coup, tu bottes en touche, comme on dit, tu vois. Parce que c'est un peu ça qui nous pose un problème, à nous, les anarchistes. C'est pas une question de loi. Et là aussi, c'est la poule et l'œuf. Si jamais on pourra pas faire une société libertaire, si c'est avec des gens qui estiment que, par exemple, quand ils ont envie de violer une nana, la seule chose qui les retient, c'est la trouille de la sanction. Si jamais c'était un truc comme ça, ben, tu vois. Donc, est-ce qu'on a besoin d'établir des lois pour dire que faut pas, évidemment qu'il faut s'en empêcher, mais comment dire, on peut pas parler de loi à quoi t'aurais de participer, parce que c'est comme si c'est ça qui pourrait faire une différence. Or, y a déjà des lois qui disent que c'est pas bien de violer les femmes ou les enfants ou de, tu vois, mais c'est pas la question de participer à une loi comme ça, c'est la question de comment sont les individus. Or, effectivement, force est de constater, je vais pas te raconter de salade, force est de constater que on a encore beaucoup de chemin à faire dans des tas de domaines pour que les individus, en l'état actuel des choses, deviennent des gens capables d'exister dans une société qui serait une société libertaire. Mais c'est pas en faisant une psychanalyse, parce que est-ce que tu vas envoyer Patrick Bruel à la psychanalyse? Jamais il voudra. Enfin, je veux dire, est-ce que tu vas envoyer Donald Trump à la psychanalyse? Tu vois, je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu dis des gens qui sont effectivement des gens violents, même des gens simplement complètement égoïstes, tu vas pas les envoyer à la psychanalyse, ça n'a aucun sens. Déjà, même quand tu y crois, il faut au moins que tu sois volontaire pour que ça te fasse du bien de parler à quelqu'un. Tu vois, mais même si c'est pas une science, mais enfin, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui t'écoute. Et des fois, t'as pas des gens autour de toi, donc payer quelqu'un pour t'écouter, pourquoi pas. Mais en même temps, il faut que ce soit volontaire. Donc ça n'a pas de sens. Si tu veux, la psychanalyse ne peut être d'aucun secours pour faire des individus, des individus actuels qui sont égoïstes et toxiques et je veux dire, bon, effectivement, c'est pas ça qui peut changer quelque chose. Enfin, voilà. Hein. Mais sinon, dans l'absolu, oui, bien sûr, mais t'aurais pas besoin de faire des lois pour ça. Pas plus que, je sais pas, quand tu viens manger à la maison, j'ai pas besoin de te mettre sous le nez un contrat que tu vas signer comme quoi tu vas pas te moucher dans les rideaux et pisser à côté de la cuvette. Ça me semble l'évidence même. Ouais. Ben, donc voilà, quoi, sur ces lois, cette histoire de loi. Voilà.
Dès l'époque de socialisme et barbarie, remarque Serge Latouche, Castoriadis définit le socialisme, avec un S majuscule, comme gestion ouvrière de la production et comme gestion collective de toutes les activités sociales par tous ceux qui y participent. Fin de citation. Cependant, pour accéder à l'autogestion, il faudra également s'en prendre à la neutralité de la technique, ce que n'avaient pas fait les marxistes. Cornelius Castoriadis ne mâche pas ses mots. L'autogestion d'une chaîne de montage par les ouvriers de la chaîne est une sinistre plaisanterie. Pour qu'il y ait autogestion, il faut casser la chaîne.
Alors ça, dans le genre, ça veut rien dire. Mais rien. Parce que, juste, on avait fait d'ailleurs un débat sur cette question des usines en société libertaire. Mais d'ailleurs, on avait fait aussi un débat un peu par rapport aux antitech sur le fait que, en effet, c'est à la fois c'est le capitalisme, puisque c'est la forme actuelle de l'oppression, même si ça date pas du capitalisme, mais que le problème, c'est pas la science, c'est un outil, et que, bien entendu, un outil, un marteau entre les mains d'un serial killer, il sert à fracasser des crânes. Mais c'est jamais qu'un outil, et en effet, tu vois pas pourquoi tu ferais des armes de destruction massive si tu étais en société libertaire. La science servirait, j'espère, à autre chose, tu vois. Mais en effet, sur l'idée des chaînes, excuse-moi, mais c'est un truc qui est bien gentil si lui il s'imagine continuer à écrire ses foutaises dans son coin pendant que d'autres iront au charbon, quoi. Mais c'est une question qui se pose comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans la communauté, tu sais, la BD, la communauté, oui. Ils expliquent que le problème, c'est que comme il fallait pour vendre leur truc, ils pouvaient pas faire une bulle anticapitaliste dans une société capitaliste.
Donc, c'était une communauté comme ils s'en faisaient dans les années 70, où ils cherchaient une autonomie collective à petite échelle.
Voilà. Mais ils espéraient pouvoir, petit à petit, gagner toute la planète, de loin en loin, etc.
En tant qu'exemple.
Ouais. Mais leur souci, justement, c'était que il fallait bien vivre, qu'ils pouvaient pas vivre en autarcie, et que donc ils avaient trouvé comme truc pour vivre, quoi. C'est une BD qui est très bien d'ailleurs comme BD, et qui est en vente à Publico.
J'ai oublié le nom de l'auteur.
Moi aussi. Ces deux auteurs, c'est des interviews de ceux qui ont fait cette expérience qui a duré 30 ans et où ils n'en sont pas sortis très gagnants quand même, quoi. Mais il y avait du bon et du moins bon. Il y avait des côtés sympas, des côtés... Mais c'est surtout toutes les désillusions par rapport à ce point de départ, quoi, si tu veux. Oui. Et en particulier, ils ne le disent pas eux, mais moi, je l'ai ton anti-travail à fond, donc je verrais pas les choses comme la chaîne de production. Moi, si c'est un truc qui peut faire que tu travailles moins, ils ont entre autres implosé, enfin, parce que ils travaillaient de trop.
C'est ça.
Ils travaillaient trop. Et pourquoi ? Parce que ce qu'ils vendaient, c'était des trucs censément faits à la main. C'est ça, tu sais, la tête de leur pitch, c'était ça, pour vendre ça aux bobos, des jouets faits à la main. Et donc, ils pouvaient du coup, ils avaient des machines-outils. Parce que quand même, le faire vraiment à la main, ça aurait été, ils auraient pas vécu de ça, quoi. Tu vois, ça aurait été trop long. Mais même avec une simple machine-outil pas très performante, ils travaillaient comme des diables. Et du coup, ils étaient très, très agressifs. Avec ceux dont ils estimaient qu'ils travaillaient moins, et puis ça arrange pas le caractère de travailler de trop, et donc c'est la question de toute façon de la productivité, c'est comment faire pour en effet être à la fois, je pense qu'il y aurait d'autres solutions si tu veux, mais le fait de critiquer la technique en soi, qu'on critique les modes d'énergie actuels, je le comprends, mais honnêtement l'idée que les machines, tu sais, c'est un truc tout bête, c'est GB, le dessinateur, qui avait dit ça, j'ai vu ça dans un Charlie Hebdo des années 70. Les gens disaient à l'époque, grâce à la technologie, on va faire une civilisation des loisirs où on n'aura plus rien à foutre, quoi. Et GB, il a dit, vous croyez pas que les patrons vont nous payer à rien foutre? Donc il y aura tout simplement de la misère d'un côté. Et puis, en effet, des gens qui bosseront à un boulot super débilitant de l'autre. Il n'y a pas de mystère. Donc, c'était un peu inévitable, on va dire, que ça se passe de cette manière. Mais un truc est sûr, les patrons, c'est comme du temps de tout ce qui pouvait être les exploiteurs, même dans l'Antiquité. Effectivement, plus ils gagnent, et plus ils sont contents. Et ils n'essayent pas de procurer des emplois aux gens. Ils essayent de se faire un max de blé, c'est sûr. Et tant qu'on est dans une société comme ça, c'est ça qui se passera, quoi, tu vois. Mais on serait dans une autre société, il y a des trucs, tu te dis, tu vois vraiment pas pourquoi tu les produirais, pourquoi tu pousserais les gens à acheter des trucs dont ils ont pas exprimé l'envie ou le besoin. Et si en plus il faut qu'ils les fassent, regarde le dernier smartphone, s'il faut aller le produire, Parce que souvent, c'est pas les mêmes qui le produisent et puis qui l'achètent, on est d'accord. Ben, c'est à cette échelle-là que ça se passera. Les gens voudront pas en faire. En revanche, tout ce qui est le confort, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, le confort minimal, voire maximal, là, tu peux, même moi, je veux bien y aller, mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc, je préférerais faire ça dans une usine. Voilà, en un mot, commençons. Et avec des machines super performantes où tu appuies sur le bouton et là, il te sort ton four tout fait. Voilà. Okay. Excuse-moi.
Donc, c'est un article de reporter, là.
Ouais, c'est ça, c'est reporter. Ça, ouais. Mais il y en a eu dans le monde diplo et tout ça. C'est pas n'importe qui.
Voilà. Donc c'est l'article d'un livre de Serge Latouche sur Castoriadis. Et nous on parlait de quoi ? On disait, ainsi l'autonomie individuelle et collective, l'autogestion omniprésente dans le dispositif de Cornelius Castoriadis, doivent favoriser la revitalisation de la démocratie locale chère aux objecteurs de croissance. Bon, les objecteurs de croissance, je ne sais pas si ça existe toujours.
Je ne sais pas. Bon, juste une parenthèse probablement sur la décroissance. Ornella Guillet, son blog et tout, qui n'existe plus, mais on a encore des articles d'elle sur anarchiste.info, le blog du groupe d'Ivry. Elle avait parlé du journal La Décroissance, et qui carrément fricotait, mais grave, avec l'extrême droite.
Oui. J'avais remarqué aussi certaines couvertures.
D'une part, il y avait les couvertures, mais il y avait surtout les contributeurs qui étaient carrément marqués, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire, tu t'avais dit un truc avant.
Non, c'est la
phrase, il y avait un truc que je voulais
cher dire. Aux objecteurs de croissance.
La démocratie locale.
Locale, voilà.
Locale. Ça aussi, c'est pas pour dire, mais enfin, il réinvente un peu l'autre tienne, mais comment dire, c'est le principe du fédéralisme, c'est anarchiste qui date pas de Castoriadis, sans vouloir lui faire de la peine, parce qu'il est tout content de sa trouvaille.
Ni des objecteurs de croissance, enfin, c'était...
Non, non, ouais.
L'écologie est subversive. L'examen critique de la technique amène tout naturellement Castoriadis à dénoncer le productivisme et la croissance. En raison du culte de l'exploit scientifique propice à l'autonomisation de la technoscience, à laquelle se moquent des différents besoins humains, il s'interroge sur le progrès du savoir scientifique. Nous voulons une expansion libre du savoir, mais nous ne pouvons plus prétendre ignorer que cette expansion contient en elle-même des dangers qui ne peuvent pas être définis par avance. Pour y faire face, il nous faut ce qu'Aristote appelait la phronesis, la prudence.
Il aurait pas pu dire faut être prudent.
Oui, voilà.
Mais non, mais ça fait. Attends.
Il nous faut de la prudence, quoi.
Ça fait bourrin. Hein. Alors que, avec Aristote et puis le mot grec, tout de suite, c'est un peu de la gueule.
Incontestablement, ce point de vue oriente clairement Castoriadis sur la voie de l'écologie politique radicale. Selon lui, l'écologie est subversive car elle met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète. Elle en récuse le motif central selon lequel notre destin est d'augmenter sans cesse la production et la consommation. Elle montre l'impact catastrophique de la logique capitaliste sur l'environnement naturel et sur la vie des êtres humains.
Enfin, bon, déjà sur l'écologie, c'est juste les bases de l'écologie, on va dire. Oui. Mais il dit ça, puis il va dire le contraire après. Parce que, évidemment, il y a quand même quelqu'un qui a dû lui souffler dans l'oreille qu'il y avait des fachos qui étaient écolos. Donc ça signifie bien, par l'exemple, justement, que. Donc il va en parler en disant oui, mais là, c'est pas pareil. Donc faudrait savoir si l'écologie, elle est subversive en elle-même. Des fachos devraient pas la récupérer. Enfin, je veux dire, si elle est si subversive que ça. Or, en effet, c'est tout à fait récupérable et de 36 000 manières, l'écologie. Mais en plus, tu vas voir les trucs qu'il dit par rapport à ça. Alors là, ça me fait vraiment grimper au rideau.
D'accord.
Mais continue.
Dès lors, l'imposture de l'économie de croissance et de développement est sévèrement dénoncée. Le développement comme le progrès, l'expansion sont, aux yeux de Castoriadis, des propriétés spécifiques des sociétés occidentales. Ainsi, dit-il, l'Occident se pensait et se proposait comme modèle pour l'ensemble du monde. Un modèle qui, pour s'imposer, bouleversa l'imaginaire des hommes demeurés, jusque-là, fort heureusement, à l'égard de la modernité. Demeurés à l'égard de la modernité.
Alors là, vraiment, là je suis super en colère. À chaque fois que j'entends des gens parler effectivement des bons sauvages qui connaissent le vrai sens du bonheur, excuse-moi, ça m'énerve, mais un point. Le truc qui a bien marché avec le, en effet, avec la consommation, c'est bête, mais je veux dire, je parle même pas des pays, enfin des n'est-ce pas, des peuplades primitives qui sont tellement ravis de vivre dans l'inconfort avec un âge de, une espérance de vie extrêmement limitée, hein, on va dire, et puis qui d'ailleurs se font exploiter la gueule sans forcément bénéficier du confort qui devrait aller avec, hein, faut quand même le dire aussi, alors qu'ils aimeraient bien, et ben c'est que ils sont pas plus bêtes que les Occidentaux. Le confort, quand on te le propose, bah tu le prends. Excuse-moi, j'en sais quelque chose. J'ai dans mon enfance, je vivais dans un taudis. On n'avait même pas l'eau chaude et il y avait des chiottes pour tout l'immeuble dans le grenier, tu vois. Et je veux dire, j'avais même pas ma chambre à moi et on n'avait rien, si tu veux. Et ben il est évident que à partir du moment où on a pu, premièrement, bon, on n'avait pas beaucoup, enfin, il fallait que ma mère aille supplier l'épicier pour pouvoir avoir un paquet de nouilles, tu vois, enfin, je veux dire, c'était ça, quoi. Et ben, petit à petit, elle a réussi à titulariser, à trouver un boulot fonctionnaire, où elle a eu un meilleur salaire, on a eu un appartement dans un HLM, j'étais folle de joie, il n'y a même pas de mots pour dire, c'était mon rêve depuis toujours, habiter un HLM, je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça doit te rendre désespéré, mais c'était vraiment pas mon cas, on avait tout d'un coup, on avait tout le confort, quoi, et puis, petit à petit, on a eu des tas d'éléments de confort qui permettaient, en particulier, par exemple, la première fois, le truc le plus fort, c'était la machine à laver le linge. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai été, même quand j'ai été autonome moi-même, j'ai pas eu de frigo, mais au début, on n'avait pas de frigo. Et ben, quand t'as pas de frigo, je vais te dire, les peuplades primitives qui connaissent le vrai bonheur, surtout dans les pays chauds, je pense que le frigo, elles le veulent bien. Alors après, il faut voir les choses en face. Si tout le monde se mettait, à partir du moment où tu démocratises un certain type de confort, oui, c'est vrai que c'est évident qu'il y aura un problème d'écologie. Et donc, il faudrait que ce soit en amont, que ce soit réfléchi. Pas, d'une part, si déjà tu produis pas des trucs dont t'as pas tant besoin que ça, ça semble évident. Mais enfin, en même temps, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire, parce que sinon, si tu, comme Castoriadis, tu demandes aux gens qui n'ont pas de confort de continuer comme ça parce que c'est bon pour l'écologie, est-ce qu'ils vont pas avoir envie de t'en mettre une, hein, tu vois ? Je veux dire, excuse-moi, mais oui, bien sûr qu'ils aimeraient mieux bouffer à leur faim, avoir l'eau courante, avoir le tout à l'égout, pourquoi pas. Enfin, tu vois, avoir l'électricité aussi. Enfin, tu vois. Ouais. Et en effet, mais ça, c'est pas comme ça qu'ils le posent. En effet, à partir du moment où tu serais même pour l'égalité, on aurait un problème de cet ordre-là, qui serait pas seulement le problème du capitalisme, qui serait le problème que, par exemple, parmi les technosciences, il y a la médecine, ben, peut-être qu'ils aimeraient mieux pouvoir être mieux soignés, être aussi bien soignés que dans les pays occidentaux, par exemple. Tu vois, enfin, je veux dire, on va arrêter sur le fait de dire que c'est que négatif tout ce qui peut être d'ordre de la science et en particulier de la médecine. Mm-hmm. C'est, tu vois, et y a des tas d'autres exemples. Et si tu veux, c'est dégueulasse, quoi, de vouloir que pour que on conserve l'écologie telle quelle. Parce que lui, je suis sûr qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, enfin qu'il vivait pas dans une cahute avec de la terre battue par terre et puis pas l'eau courante, hein. Ça m'étonnerait bien. Donc, qu'est-ce que tu crois ? C'est pour ça que ça a eu tant de succès. C'est le problème du capitalisme. C'est que il y a pas que le bâton, il y a la carotte aussi. Et on en sait quelque chose nous-mêmes. Jusqu'où on est prêt à renoncer à du confort pour une société plus égalitaire ? Jusqu'où ? Et pour que le climat s'en trouve mieux. Parce que on peut toujours faire des grandes déclarations. Ah, il faudrait qu'on lève le pied. Ouais, ben on le lève pas beaucoup. Hein.
Non, on lève voilà. Pas du tout. Pour
voilà,
tout fut minutieusement organisé pour que nos bons sauvages, c'est-à-dire les hommes demeurés à l'écart de la modernité.
C'est pas lui qui dit les bons sauvages.
Non, c'est moi. Donc, pour que ceux-ci, en fait, c'est pour dire, consentir enfin à modifier leur propre organisation psychique pour être, entre guillemets, en voie de développement dès que leur pays emboîtèrent le pas des économies occidentales.
Ouais, tu vois, mais reste où t'es. C'est bien comme ça, bouge pas, bouge rien.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors, sortir du capitalisme,
Si pour Castoriadis 10, la révolution doit pouvoir s'accomplir sans effusion de sang, cependant, précise-t-il, il faut que des changements profonds aient lieu dans l'organisation psychosociale de l'homme occidental, dans son attitude à l'égard de la vie, bref, dans son imaginaire. Toutefois, il est bien conscient que la décolonisation de l'imaginaire sera un travail de longue haleine. Chez Castoriadis, l'être humain doit avoir la volonté d'être libre et de mettre en œuvre une praxis réflexive et délibérée qui permet de réaliser cette liberté.
Ce qu'on appelle un vœu pieux. Enfin, ça serait bien. Hein. Ça serait bien.
La liberté, c'est l'activité qui simultanément s'autolimite. Ainsi, l'homme sait à la fois qu'il peut tout faire, mais qu'il ne doit pas tout faire.
Ouais,
alors là, on revient sur cette théorie du freudienne de l'enfant qu'il faudra socialiser, parce que sinon il est trop...
En plus, on comme si toutes les cultures du monde essayent de... Et puis même simplement, c'est le processus naturel que quand t'es petit, tu fais un peu n'importe quoi. Et même chez les animaux, c'est le cas. Par exemple, des chatons qui ont été privés de leur mère ou des chiots qui ont été privés de leur mère, c'est la mère qui leur apprend à être propre, à être moins agressif, etc. Tu vois. Donc, on n'a pas attendu... Même la nature, elle est dans cette idée... qu'il y ait une évolution comme ça, naturelle. Et on n'a pas attendu, ni après Freud, ni après Castoriadis, pour ça. Voilà.
Scandalisé par le saccage de la planète, Castoriadis pensait que les hommes, aujourd'hui, devraient en être les jardiniers, la cultiver pour espérer donner un sens à leur existence. Appelant de ses voeux l'avènement d'un écosocialisme authentique, rempart contre la montée possible de l'écofascisme.
Ah, tu vois, comme quoi il reconnaît que tu peux être. C'est pas forcément si subversif que ça l'écologie.
Mmh. Ouais. Serge Latouche rejoint de la sorte Cornelius Castoriadis en le citant une dernière fois. L'écologie peut très bien être intégrée dans une idéologie néofasciste. Face à une catastrophe écologique mondiale, par exemple, on voit très bien des régimes autoritaires imposant des restrictions draconiennes à une population affolée et apathique. L'insertion de la composante écologique dans un projet politique démocratique radical est indispensable. Elle est d'autant plus impérative que la remise en cause des valeurs et des orientations de la société actuelle impliquée par un tel projet est indissociable de la critique de l'imaginaire du développement sur lequel nous vivons. Voilà, et c'est la fin de l'article.
Ouais. Il est quelle heure à part ça ?
Ah, il est 24.
Ah bah tu vois, on n'est pas loin. Oui, donc, voilà. Là, j'ai sur un truc et tout aussi. Alors, soit c'est des trucs un petit peu, effectivement, limite poétique, tu vois, mais... tout ce qui se présente à nous est indissociablement tissé au symbolique. Ah, oui. Et tu sais, moi, un mec qui me dit un truc comme ça, ça me cloue le bec.
Ah oui, c'est lié aussi à la définition qu'il fait de l'imaginaire par rapport à...
Donc, oui, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un peu tubule, mais encore. Mais il y a aussi, pour dire, il dit un truc et le contraire après, nous ne cherchons pas à établir que cette fleur-ci, comme les autres, se fanera, se fane ou est déjà fanée. Nous cherchons à comprendre qu'est-ce qui, dans ce monde social, historique, meurt, comment, et si possible, pourquoi. Non, tu sais pas à quoi ça s'applique non plus, mais nous cherchons aussi à trouver qu'est-ce qui y est peut-être en train de naître. Je veux bien, mais sauf que il arrête pas de dire « on vit dans une société qui est de plus en plus comme si... » Mais à part ça, il essaye pas de savoir qu'est-ce qui se fane ou qui est déjà fané. Donc, tu vois, c'est... Oui. Ben c'est parce que... Excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'il parle un peu sous lui, hein, quand même, des fois.
Voilà. On va faire une pause. Sur Radio Libertaire.
Donc voilà... Vous êtes donc sur 89.4. Non, je plaisante, sur 89.4, simplement. Radio Liberté.
Wesh, Alphé, wesh, Alphé, wesh, Alphé, wesh, Alphé. Ouais, c'est l'été, wesh, Alphé, ça dépasse les 40 degrés. On n'oublie pas de s'abreuver, de rester à l'ombre, profiter.
Des glaçons, des glaçons, des glaçons.
Ambiance canicule, on
on se la joue ridicule. Ambiance canicule, on se la joue ridicule. À cause des glaçons, à cause des glaçons. On boit à profusion, limite le picon pour éviter d'être trop con. Une petite tranche de melon, puis des fois on déraille, youyouy, aïe aïe aïe. Puis des fois on déraille, youyouy, aïe aïe aïe. Quand on se la joue Casanis, faut éviter qu'on glisse. Essayer de rester sur la piste, repartir en arrière et s'envoyer en l'air. Repartir en arrière et s'envoyer en l'air. Jouer les dromadaires, éviter les grosses bières. S'enivrer à la pils, les pieds dans la rivière. Les pieds dans la rivière. Et la nuit pour s'endormir, j'ai cette sensation de cuir. J'ai transformé mes draps en chute du Niagara. Un délirium trémence, une sudation intense. Faut que limite la potion pour éviter l'explosion. Choisis ma boisson, reste la seule solution.
À cause des glaçons,
reste la seule solution.
Glaçons, glaçons, à cause des glaçons. Y'a le mercure qui s'affole, la température qui s'envole. Pour pas être desséché, va falloir s'hydrater. Mais à cause des glaçons, par la chaleur accablée, plus moyen de me bouger. Mais je vais devoir troquer mon rosé pour un thé glacé. À cause des glaçons, quand ce jour de canicule, prends surtout pas de pull. N'oublie pas ta glacière, casse-toi à la rivière, casse-toi à la rivière. À cause des glaçons, quand ces jours de canicule, plus rien tu ne calcules. Je saute dans la piscine et l'eau sort de mes narines.
Je sois ta grosse goutte sous ma touffe. Je ferai bien la sieste dans mon frigo. En attendant, je bois des carafes d'eau.
À cause des glaçons,
glaçons, glaçons, glaçons, glaçons. J'étais si bien sur cette plage et maintenant je suis en nage. J'avais tant rêvé ce moment. Je restais tendu et serre les dents à sécher et le cerveau ramolli. Je veux trouver de l'ombre. J'enjambe tous ces corps rougis et je fuis tous ces zombies. J'ai soif, j'ai chaud, je sue, je pue, j'ai mal aux os. Je veux mon frigo, je veux mon frigo. J'avais tant rêvé de cette plage, mais fait trop chaud, mais fait trop chaud.
Je voudrais mon frigo.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et bon, revenons à notre discussion sur Castoriadis, mais auparavant je vous propose une petite brève de l'actualité qui nous vient donc de... Ici, c'est l'AFP, quoi. Par l'intermédiaire du journal 20 minutes. Alors bon, c'est une brève qui date d'il y a un mois, hein, du 15 avril 2026. Menace terroriste, c'est quoi cette injonction d'examen psychiatrique votée par les députés ? Parlement. L'Assemblée s'est prononcée, donc ce mercredi 15 avril, en faveur de la création d'une injonction d'examen psychiatrique dans le but de prévenir des actes terroristes, ce qui pourra forcer certaines personnes à se soumettre à un examen psychiatrique. Amalgame entre radicalisation et maladie mentale, c'est ce que dénonce la gauche dans les rangs de l'Assemblée qui s'est prononcée ce mercredi en faveur de la création d'une injonction d'examen psychiatrique. Le préfet pourra, dans le but de prévenir des actes terroristes, forcer certaines personnes à se soumettre à un examen psychiatrique. Les personnes visées devront à la fois adhérer à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et avoir eu des agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux. Au vu du certificat médical établi après l'examen, le préfet pourra ensuite prononcer une hospitalisation forcée. Cette proposition de loi, portée par le député Renaissance Charles Rodwell et soutenue par le gouvernement, continue d'être examinée en première lecture cette semaine-là, c'était le mois dernier, avant un vote solennel sur l'ensemble du texte le 5 mai. Tout au long de l'examen de l'article premier adopté par 79 voix contre 51 avec le soutien du centre, de la droite et de l'extrême droite, la gauche a donc dénoncé l'amalgame fait entre radicalisation et maladie mentale. C'est extrêmement grave de faire peser la responsabilité de la prévention d'un passage à l'acte terroriste sur le dos des soignants, a dénoncé la socialiste Céline Hervieux, ajoutant qu'il n'y a pas de lien direct établi entre le fanatisme et la maladie mentale. Le ministre veut trouver des prétextes pour enfermer des gens qu'il veut de toute façon enfermer. Là, cette fois-ci, c'est la psychiatrie, a lancé l'insoumis Hugo Bernalici. De force s'il le faut. Le rapporteur Charles Rodwell a fait valoir que son texte prévoyait qu'en cas de refus de la personne de se soumettre à l'examen, ce serait à un juge d'autoriser ou non cette procédure. Ce dernier pourra aussi autoriser les forces de l'ordre à se rendre au domicile de la personne pour la présenter à un psychiatre. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a défendu une mesure qui permettrait aux services de renseignement de comprendre ce qui relève de la radicalisation et qui relève de troubles psychiatriques. Donc une sorte de police qui essaierait de faire cette différence pour assurer un meilleur suivi. Il a souligné que la procédure d'hospitalisation pour contrainte d'hospitalisation sous contrainte existait déjà dans le droit commun. Celle-ci peut déjà être prononcée par le préfet pour des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent même, de façon grave à l'ordre public. La séance avait été plusieurs fois suspendue lors de l'examen de l'article, à la demande de la gauche, et de nombreux sous-amendements ont été déposés par les insoumis, visiblement pour retarder les débats. Il pourrait manquer de temps en fin de semaine pour parvenir au bout de l'examen d'une autre proposition de loi sur l'antisémitisme combattue par la gauche. Bon, voilà. Et du coup, voilà, il y a une sorte de... Voilà, donc il y a des gens qui viennent nous passent. Ben oui, ils font un studio B, voilà. Bonjour. Et nous, voilà, après cette brève, nous pouvons continuer sur notre thématique.
L'heure est passée, notre carotte se change pas en citrouille à cette heure-ci.
Alors attends. Ah ben oui, 10h30, d'accord, bon, voilà. Ah ben oui, Je n'ai plus la notion du temps. Eh bien, dans ce cas, ainsi se termine l'entonnoir. Et merci Sylvie d'être passée. Et à bientôt.